mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. » Suite de la première partie, pages 31 à 37. Thérèse ne savait rien des maisons de retraite. Était-ce une gare où s'étirent les heures dans le silence feutré des salles d'attente? Un quai où des vieillards languides repassent en boucle les souvenirs d'une vie? Un train qui s'éloigne? Un dernier adieu? Ou rien qu'un tranquille abandon vers des lendemains incertains? Mais elle n'imaginait pas qu'un tel lieu puisse générer tout ce bruit qu'elle entend derrière la nonne à l'instant où elle ouvre la porte, et qui laisse deviner l'agitation fébrile d'un personnel en plein rush. C'est une sœur vêtue d'un scapulaire et coiffée d'une cornette qui reçoit Thérèse. Et cette religieuse tourne les talons sans prononcer d'autres mots que « suivez-moi ». Dans l'air flottent des relents de javel, effluves traversés parfois d'essence de cannelle, de musc ou de santal, quand elles croisent une pensionnaire. Une odeur particulière de fraîcheur surannée. « Ça sent le vieux, » pense Thérèse. « Voilà, nous y sommes. » La sœur lui montre un lit au fond d'une pièce. « Vous partagerez votre chambre avec des personnes âgées. Votre lit se trouve dans le coin pour que vous ne les dérangiez pas. Quand l'une d'elles aura besoin de vous la nuit, essayez de ne pas réveiller les autres. » Thérèse mesure le volume de la pièce à l'écho de la voix qui bondit d'un mur à l'autre. Elle se dirige vers l'angle où se trouve son lit, sous lequel elle glisse sa petite valise. Les ressorts du sommier grincent. Quant au drap tissé dans un fil de coton rêche, il semble propre. « Nous n'avons pas que ça à faire, dépêchez-vous. » La sœur fait le tour de l'établissement à pas pressés, talonnée par la jeune fille. De l'infirmerie à la cuisine, en passant par le couloir qui distribue les chambres. Une visite au pas de course. Thérèse parcourt une nuit habitée de sons. L'incessant va-et-vient autour d'elle fait penser au bourdonnement obsessionnel des ruches. Elle entend le bruit mécanique, régulier, des fauteuils roulants que poussent rapides quelques soignants suragités. La nonne que suit Thérèse lance des ordres à la volée qui sous-entendent l'interdiction de prendre ou perdre son temps. Parfois, au milieu de l'effervescence, une voix chevrotante se fait entendre, fêlée par endroits comme une porcelaine usée. Une voix nasillarde qui laisse deviner un être frêle que le vieillissement rend plus faible qu'un nouveau-né. Une voix qui se noie dans le flot ambiant jusqu'à disparaître dans un lointain murmure. À l'odeur, mais aussi au chuintement du feu des fourneaux, au bruit des casseroles, à l'activité là aussi palpable, elle devine que la sœur l'a conduite aux cuisines. On lui met un plateau dans les mains. « Apportez ça à la salle à manger !» C'est ainsi que, sans autre préambule, Thérèse attaquait sa première journée de travail dans la maison de retraite. Tous les jours, à l'heure des repas, elle portait des plateaux, coupait la viande des unes, aidait les autres à manger. Mais le vendredi, jour du poisson, elle ne s'en sortait pas. Toutes ses arêtes, elle n'en voyait pas le dixième. Il en restait de nombreuses dans les morceaux qu'essayaient d'avaler les personnes âgées. Alors les religieuses lui confièrent un autre travail. Une dame tremblait de tous ses membres et ne pouvait se débrouiller seule pour les repas. Et sa tête, comme le reste du corps, subissait ce permanent séisme qui obligeait Thérèse à la nourrir comme on joue aux fléchettes, les yeux bandés. Les religieuses la blâmaient et lui disaient qu'elle ne valait rien. Les pensionnaires s'en mêlaient aussi. Mais que pouvait-elle de plus ? À chaque réprimande, chaque reproche, elle accumulait une dose d'aigreur comme seule rémunération. Car elle ne percevait pour tout salaire que logement et nourriture. Le sentiment qu'elle éprouvait ressemblait à ces gravats de pierre, de briques et de poussière. Ces ruines qu'on trouve au pied des murs délabrés d'un quartier détruit par les bombes. Les fragments de ses illusions. Elle se mit à chanter, tous les jours, à croire qu'elle était heureuse. Tout le monde le pensait. elle ne pouvait plus que chanter, pour camoufler sa tristesse. Chanter, sans arrêt, comme un rossignol en cage, perdue dans le labyrinthe de sa solitude. Trop loin du bonheur pour qu'il l'atteigne, le bonheur, lui, s'arrêtait en chemin sur d'autres cœurs, ou bien s'égrenait en six petits morceaux, des frémissements, des émotions fugaces, un vertige peut-être. Il ne lui restait plus que l'orgueil, alors elle chantait, et c'était comme la mélodie de cristal d'un verre qui se brise. Plus d'une heure s'était écoulée à se tortiller sur sa chaise et se demander si on ne l'avait pas oublié. Le temps de comprendre les raisons du glissement sémantique faisant d'un malade impatient. Thérèse avait pris rendez-vous chez un ophtalmologiste. Dans la salle d'attente, elle écoutait le bruit des pages froissées de ces revues qu'on parcourt à la hâte. L'exaspération qui fait battre la mesure à des jambes croisées et son incessant va-et-vient, tous ces mouvements, leur bruit, s'interrompaient quand arrivait une femme dont elle avait entendu la voix à plusieurs reprises, et chaque fois elle ressentait que se focalisait sur elle l'attention de tous. Chacun laissait alors pour quelques secondes toute activité en suspens, épais silence. Thérèse ne voit pas cette femme, blonde décolorée, juchée sur des hauts talons, vêtue d'une blouse blanche, qui appelle le suivant. Mais elle entend qu'il la rejoint, son bruit de pas, la porte qui se ferme. Quelques secondes après, les pages se froissent de nouveau, la jambe et son va-et-vient, le tic-tac de la montre, l'attente. À la question du médecin qui lui demande ce qui ne va pas, Thérèse répond qu'elle est myope. « Non, c'est pas la myopie qui vous empêche de voir, mademoiselle. » L'ophtalmologiste, un homme affable, prenait le temps d'expliquer ce qu'il faisait en auscultant les yeux de Thérèse. Après l'examen, il lui dit qu'il pouvait l'opérer. Pour Thérèse, un soupçon d'espoir prenait forme dans ses mots. Elle attendait un possible résultat, mais l'intervention chirurgicale n'a débouché sur rien de probant. Pas plus de lumière que d'arc-en-ciel. À défaut de solution, au bout d'une année à tenter diverses thérapies, le médecin envoya Thérèse apprendre le braille. Thérèse ne palpa jamais de ses propres doigts le pécule que la DAS lui devait. En théorie, sa majorité atteinte signifiait qu'on lui restituait l'argent qu'elle avait gagné. Beaucoup de sueur avait coulé, pour la saveur d'un courant d'air. Thérèse intègre la Chartreuse qui la prend en charge. Un établissement scolaire pour aveugles, qui enseigne aussi le braille à des jeunes non scolarisés. Ces derniers travaillent la journée à rempailler des chaises dans un atelier annexe. Le régime des deux lieux n'est pas le même. Un professeur de musique repère l'énorme potentiel de l'oreille absolue de Thérèse. Quand il demande au directeur la permission de lui enseigner le piano, la réponse est sans appel. Elle se contentera de rempailler des chaises en apprenant les rudiments du braille, les lettres et quelques mots. Apprentissage qu'elle terminera seule après avoir quitté cette institution un an et demi plus tard, regrettant longtemps encore de n'avoir pu apprendre la musique. Thérèse se souvient des premières années passées dans la maison de retraite. Du dortoir réservé aux vieillardes démunies, une si grande pièce avec son propre lit coincée à l'un des angles. Quand l'une d'elles appelait la nuit, elle se levait sans bruit, en faisant attention de marcher à pas de loup pour ne réveiller personne. Elle les entendait ronfler, et, supposée qu'allégée du poids de l'âge, elle retrouvait, dans leurs rêves, la sève disparue de leur corps fossile. Thérèse, gardienne de leur nuit, partageait leurs conditions de vie comme cette tambouille qu'on leur servait pour nourriture. Un infâme ratat composait des restes du repas des autres pensionnaires. On réservait cette pitance aux démunis, comme on fait un geste vague de la main pour dire adieu, dans un style sans allure ni panache. Les responsables de la maison de retraite firent à nouveau appel à Thérèse pour s'occuper d'une dame atteinte de la maladie d'Alzheimer. La surveiller, faire sa toilette, partager sa chambre. Les conditions lui étaient plus favorables, puisqu'elle bénéficiait cette fois-ci du confort d'une chambre individuelle et de repas soignés. Mais toutes les nuits, son attention la gardait en alerte. 2 années passent, sur des demi-sommeils inachevables, les yeux creusés de cernes, les gestes plus lents. Thérèse veillait. Elle scrutait le moindre mouvement, le son le plus ténu, s'efforçait de ne pas dormir, ce qui lui imposait l'extrême fatigue, procédait de la fascination des gouffres. Incapable de résister à l'attirance, elle sombrait dans un profond sommeil. Le bruit alors pénétrait au creux de ses rêves pour la remonter à la surface incertaine de cette chambre embrumée de songes. Elle devait se lever sur le champ pour ramener au lit cette pensionnaire qui avait déjà la main sur la poignée de porte. Le médecin de la maison de retraite recommande à Thérèse de cesser ce travail avant qu'elle ne plonge moribonde dans un empilement d'incertitudes et de renoncements. Thérèse, soulagée, quitte cet univers clos, fracturé en éclats flottants çà et là comme des îlots de vie, aléatoires, dénués de sens, qui modifiaient la cohérence des événements, ponctuant l'activité humaine en un lieu de hasard. Elle n'avait plus à se préoccuper de cet esquif dérivant dans un océan d'amnésie. Tout ça n'avait plus d'importance. Elle nettoyait désormais les chambres des pensionnaires, les assistait, aidait celles qui en avaient besoin pour leur toilette. Devenue l'interlocutrice de confiance, elle rendait de nombreux services et retrouvait le fil des nuits qui se succèdent et la place de chaque repère qui jalonne le jour. Mais elle gardera des fréquentes glissades vers les hauts fonds hallucinés de ses sommeils interrompus, le souvenir d'une irrésistible fatigue.